la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein à votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et bonsoir chers auditeurs, chères auditrices, chers lecteurs, chères lectrices. Bienvenue dans votre émission littéraire, un livre sur le zinc sur 48FM en partenariat avec la librairie, la livrerie et la médiathèque départementale de Lozère. Alors c'est une nouvelle saison qui s'ouvre non pas cette année sur nos livres lus pendant l'été, mais sur la rentrée littéraire. Alors d'après nos confrères de France Info, cette rentrée littéraire de septembre 2025 compte 484 références, soit 5,45% de plus que l'an dernier qui s'établissait à 459 romans. Alors on va vous en proposer une dizaine dans cette émission où l'on va évoquer tour à tour la guerre civile espagnole, la guerre de sécession, la guerre du Donbass de 2014. On va partir à la rencontre d'une communauté métisse des îles Malaga dans l'état du Maine. On va effectuer un road trip en Méditerranée et dans les Balkans. On va parler d'engagement radical et de pacifisme nomade, apprendre à faire le deuil d'une liaison adultère ou apprendre à faire le deuil de sa propre vie. Il sera aussi question de filiation mère-fille et de comment présenter son compagnon parisien à sa famille marseillaise, d'une relation nostalgique entre un écrivain et un pianiste, et le tout avec des wildcards à foison. C'est parti pour cette sixième saison d'un livre sur le zinc. Salut Valérie.
Hello.
Ça en fait des nouveautés à proposer à la librairie.
Pourquoi t'as parlé que de 10 là, il y a 500, on va en parler de moins de 50.
Ben oui, surtout que tu en as proposé pas mal, mais ça on va y revenir.
J'en ai très peu à côté de moi.
Tout à l'heure. Salut Marlène, comment ça va ?
Salut, ça va.
Tu as passé un bel été ?
Ben oui.
Un été studieux fait de lecture et de farniente.
Ou pas.
Ou pas, je ne sais pas, c'était une question.
Toi, tu ne la suis pas sur les réseaux, on dirait.
Non, je n'ai pas de réseau. Salut Pauline.
Salut tout le monde.
Toi aussi, beaucoup de nouveautés à proposer à nos jeunes collégiens mondois.
Ah ouais, j'ai lu plein de choses chouettes.
Salut Elodie, en forme pour cette rentrée ?
Oh, je suis au taquet.
Bon, et cette médiathèque à Balsièges va bien ?
Elle est, elle attend tout le monde, elle attend de nouveaux lecteurs, on est prêts.
Bon, bah écoute, on entendra peut-être un petit reportage un de ces jours sur notre antenne.
Vous êtes les bienvenus.
Voilà, salut Thomas.
Salut Ludo, salut tout le monde.
Voilà, je te demande pas comment ça va, vu qu'on se voit 24 sur 24
exactement.
En ce moment, c'est ça.
Ça va toujours.
Alors, une fois n'est pas coutume, on va commencer par Valérie, donc, qui m'a donné une sélection de 443 livres pour cette émission. Alors, tu nous proposes, j'en ai pris un au hasard, hein, dans ta longue liste.
Ah, mais tu commences avec ton livre à toi ?
Non, après... Il n'était pas dans ma présentation, d'ailleurs, mon livre.
T'en parleras.
Ouais, peut-être que je...
Si Nabokov, on
je
en parle.
Pas.
T'es obligé.
Alors,
maintenant.
Machine de guerre, le deuxième roman de Stéphane Labarrière.
Celui que j'ai tout en bas de la pile.
Voilà, allez, vas-y, cherche-le, comme ça je vais donner sa bio.
En attendant.
Voilà. Romancier, critique de spectacle, il est également auteur d'un essai spectacle vivant à l'épreuve de l'itinérance chez l'Armatan 2016. Pardon. Et c'est l'un de ses thèmes obsessionnels, c'est la condition nomade. Alors on va voir si tu en parles, s'il en parle dans ce livre.
Tout à fait.
Eh ben oui, ben c'est parfait.
Voilà,
alors.
Merci.
De rien.
C'était
le présenter.
Non, alors Stéphane, alors j'aurais parlé de ce livre même s'il ne faisait pas l'honneur de venir à Mende. Alors évidemment, j'ai pas mon agenda.
Ah.
Mon carton rouge.
On le cherchera pendant la
oui,
pause
on
et on le dira.
Voilà, on redira. Donc il va venir parler de ce livre. Je sais qu'il nous écoute, mais je ne sais pas faire de la malhonnêteté. Quand j'ai commencé à lire ce livre, sur la moitié du livre, je ne savais pas si j'aimais ou pas. Mais c'était un sentiment qui était tout noir, tout blanc. Sur le quatrième de couverture, ça nous est présenté comme... vraiment une sorte de plaidoyer écolo, combattre les méga-bassines. En fait, c'est autre chose. C'est plus fin, c'est plus puissant. En fait, j'ai adoré à la fin, enfin après. C'est beaucoup plus subtil que ça. En fait, on suit Sarah, donc, qui est nomade, Voilà, donc je ne savais pas que c'était son fer de lance, donc oui, je te confirme. Mais qui est nomade, il ne faut pas s'imaginer qu'elle parcourt des tours de France ou d'Europe au quotidien. Non, elle est nomade avec toute la lenteur et toute la beauté que ça peut avoir. Le texte est écrit à la deuxième personne du singulier, donc elle parle d'elle en disant « tu vas faire ci, tu vas faire ça », donc c'est encore une écriture un peu différente. Et on la suit à travers l'Écosse du Lot. Donc pas très loin d'ici, donc on arrive vite à imaginer, à la suivre dans sa lenteur, à s'imaginer tous les détails, les oiseaux, les rivières. Il y a beaucoup de rivières que moi j'ai ressenties comme étant des personnages dans ce livre, et on la sent très attachée justement, avec un affect nécessaire à cette nature qui l'entoure, et qu'elle voit péricliter au fur et à mesure que le temps passe. Donc là, le petit lien écologique qui est lié évidemment dedans, avec les abus de l'usage de l'eau autour d'elle. Elle sent aussi qu'on l'exclut peu à peu de sa condition de nomade. On ne lui laisse plus accéder à l'eau potable dans les cimetières. Enfin voilà, il y a toute cette vie qui est faite de survie. Et en parallèle de ça, il y a tout le réseau autour d'elle, tous ces gens qui la font travailler, qui sont contents de la voir, qui l'accueillent à sa table, et une rencontre avec une jeune fille qui est nomade elle aussi, et qui va beaucoup faire bouger la vie de Sarah, qui suite à un accident de vie ne voyait plus l'avenir. Je ne voulais pas tout spoiler, c'est pour ça que je cherche mes mots. Et comme d'habitude, je n'ai pas de notes. Et elle va l'amener à reavancer à son rythme. Et moi, je m'attendais à ce que ce soit un livre qui soit très, très punchy en termes d'engagement, enfin de ZAD, d'éco-sabotage. Et je passais mon temps à le dire, mais vas-y, enfin... Va péter la gueule au gérant du golf,
Mais t'es trop violente, toi.
Non, mais je m'attendais, parce que je pense que je m'attendais à ça. En fait, c'est juste après le soulèvement de la terre, je me suis dit, tiens, c'est ce qui va se passer. Et en fait, c'est beaucoup plus subtil, et c'est à la fois déraisonnablement raisonnable. Il va se passer des choses. Il y a des projets un peu éco-industriels qui sont très néfastes pour la nature, pour l'environnement. Il se passera des choses, et c'est un livre qui paradoxalement va être à la fois lent, comme la vitesse à laquelle Sarah se déplace dans son quotidien, et à la fois très riche en rencontres, en optimisme, en avenir, et aussi en réalité sur ce que le monde, et notamment notre ressource en eau, est en train de devenir. Voilà, je ne sais pas qu'en dire plus, sans spoiler de trop.
Bah, c'est déjà pas mal.
C'est trop long.
Tu le classes dans quoi
Pour l'instant, sur la table de la rentrée littéraire.
Je ne
pose pas
ça,
de questions. Non, et après, il ira. J'y souhaite une longue et belle vie. Et il ira dans ma littérature blanche. Pas forcément aux essais écolos, mais quoique. Il y a des fois comme Virginia Woolf qui a sa place dans trois endroits différents dans cette librairie. Il peut avoir sa place à côté de Descola assez facilement aussi, quand même.
C'est quelle maison d'édition ?
C'est rue Fromentin.
D'accord.
Voilà,
et cette année, on a décidé de vous lire des extraits à chaque livre. Tu en as choisi un.
C'est sympa. Hein ?
Non, c'est pas vrai.
Ah, merci.
Je te prends.
Non, absolument, j'avais mes lunettes, j'étais partie là.
Non, cette année, je vais balancer un peu d'ailleurs. Il faudrait qu'on filme cette émission un peu, parce que si les gens pouvaient voir Pauline qui mange des belins sans faire du bruit, donc elle essaye de les faire fondre dans sa bouche, mais c'est extraordinaire, quoi. Je croirais presque à la messe. Alors, Pauline qui s'est enfin remise à lire des livres qui parlent de guerre.
Ah,
quoi.
Ça y est,
après
merci.
Après une année avec que des thèmes positifs, on en avait marre.
Ça
là.
M'a tellement manqué.
Et là, bim, allez, c'est parti, deux livres, deux guerres différentes. On va commencer à Guerre civile espagnole.
Ah ouais, très bien.
Avec Léonore de Recondo pour Marcher dans tes pas.
Ouais.
Génial.
Ouais. Alors là, c'est très difficile parce que j'ai deux bouquins à vous présenter et j'ai deux méga coups de cœur, mais pour des raisons hyper différentes. Alors, Léonore de Recondo, je pourrais presque ne pas vous parler de l'histoire, mais bon, ce serait quand même un peu bizarre de ne pas du tout vous parler de l'histoire parce que tout dans ce livre est dans l'écriture. Mais une écriture qui te transporte, qui te fait galoper, qui te fait aller en douceur, qui te fait pleurer, qui te fait... Quelle écriture incroyable, c'était fabuleux. Alors bon, je passe deux minutes sur l'histoire, mais... Ouais, non mais franchement, elle aurait pu écrire sur n'importe quel thème. Voilà, sa plume fait tout, dans ce bouquin. Donc bon, l'histoire quand même, hein, parce que bon.
Oui. En plus, c'est toujours mieux de bien écrire. Hein.
Voilà, mais d'autant que je pense que c'est, je sais que maintenant que c'est autobiographique, donc Léonore de Recondo a des ancêtres espagnols. Qui ont quitté l'Espagne pendant la guerre civile, qui ont quitté plus précisément le Pays Basque, qui ont juste traversé une rivière, la Bidasoa, à pied, parce qu'un jour, on est arrivé dans leur maison, le jour de l'anniversaire du plus petit de leurs enfants, donc sa grand-mère fait un gâteau de riz, et là, quelqu'un rentre dans la maison et dit « Partez, ils arrivent ». Et là, ils partent, à pied, à neuf, la famille, les oncles, les enfants, enfin, pas tout le monde, hein, pas au complet. Ils traversent un pont et les voilà exilés en France, à Hendaye. Et régulièrement, la grand-mère s'installe sur la plage et regarde juste de l'autre côté de la rivière son village se faire bombarder. Donc bon, c'est vrai que l'histoire est un peu importante, je vous l'accorde. Et en fait, Léonore de Recondo, pourquoi elle nous raconte ça? Parce que, alors je ne sais plus exactement quelle année, en 2022, l'Espagne a sorti un nouveau texte qui donnait la possibilité aux enfants d'exilés politiques de demander la nationalité espagnole. Et donc, elle rentre dans cette démarche et forcément, elle revient sur son passé. Est-ce que je me sens espagnole? Est-ce que je me sens basque? Qui je suis? Qui sont mes enfants? Etc. Et du coup, elle revient sur son passé. Mais alors cette écriture, mais c'était dingue. C'est-à-dire que on a toute une prose avec la longueur des phrases même donne le rythme du bouquin, mais tout le long, on pourrait presque ne pas s'arrêter et à des moments sentir essouffler. Et elle a ce talent pour faire rentrer de la poésie, même en vers, dans son texte, et que ça paraisse complètement naturel et complètement justifié, et ça apporte tout à son texte. Alors j'ai prévu un tout petit
comme
extrait,
on avait dit, hein.
Voilà, comme c'était prévu,
comme
évidemment,
c'était prévu.
C'est dingue, parce qu'il y a des poèmes qui font plusieurs pages, hein, qui font office même de chapitres, et donc là, Léonore de Recondo retrouve des photos de la plage d'Hendaye, de fin 36 ou début 37, et en fait ce qu'elle voit sur les photos, c'est pas du tout ce qu'elle entend raconter du passé. C'est-à-dire que il y a des enfants qui regardent dans une longue vue, des gens qui se font dorer au soleil, et en fait elle sait que de l'autre côté de cette rivière il y a un massacre qui est en cours. Et donc elle écrit: je suis loueur de longue vue, je suis la femme assise sur la falaise, je suis celles et ceux qui regardent les tirs d'obus, qui rentrent le soir chez eux, s'allongent sur leur lit avec la conscience trop tranquille. Et voilà, et donc ça arrive comme ça dans le texte, et c'est dingue, c'est une merveille, vraiment lisez-le lisez-le pour l'écriture. J'ai rarement été autant emportée par une écriture.
Moi ça m'avait fait pareil avec son livre que j'ai découvert avec Pietra Viva. Mais je m'arrêtais juste pour reprendre mon souffle.
Ah ben voilà,
c'était dans les carrières d'Italie, une relation amoureuse entre un tailleur de marbre ou de granit, je ne sais plus, ça j'ai lu il y a très longtemps, et son apprenti, mais d'une beauté, pareil, c'était la manière dont elle écrit, sublime le récit.
Et oui, c'est assez étonnant. Très douée, ouais. Oui, oui, ah, oui. Son talent, c'est l'écriture, vraiment. Hein.
C'est musical un peu comme texte.
Parfois, ça peut être musical, mais pas toujours. Ça peut être assourdissant, ça peut être tout dépend de ce dont elle nous parle, et on entend son texte, il vibre, hein, vraiment, les mots.
Alors je te dis ça parce qu'elle a quand même une vie assez particulière. En fait, c'est une violoniste. Elle était violoniste, elle a eu énormément de prix, elle était bachelor degree, et en 2010 elle a arrêté le violon pour écrire. Voilà. Elle a été violoniste pendant 20 ans, violoniste professionnelle, elle a écumé les conservatoires, elle a eu de nombreux prix, c'était une grande, grande violoniste.
Mais il y a peut-être quelque chose de musical,
et elle a arrêté pour écrire.
Dans son écriture.
Voilà.
Hein.
Et là, pareil.
Il y a sûrement un lien. Hein.
Oh, certainement, oui. Ouais. Et là, de 2015, Amour obtient le grand prix RTL Lire, prix des libraires 2015. 2017, Point Cardinal, prix des romans des étudiants de France Culture Télérama, etc.
Celui-là, je ne vois pas comment il pourrait passer à la trappe non, il va avoir.
On va faire
chose.
Une émission, on vous avait dit.
Ouais, on vous avait prévenu.
Je vous l'avais dit.
Je vous l'avais dit.
Moi, je trouve que l'iconoclaste fait une rentrée fracassante.
Oui, c'est l'iconoclaste.
Je ne suis pas d'accord avec toi.
C'est l'iconoclaste. Ah ben c'est bien, on est là pour en débattre.
Je vais aller chercher le troisième de la rentrée littéraire de l'iconoclaste pour en parler.
Merci Marlène. Elodie, ben toi, toi, je parlais de prix, tu vas nous parler du prix Pulitzer pour l'un de ses précédents romans, Les Foudroyés, en 2024, juste l'an dernier. On va parler de l'écrivain américain Paul Harding qui sort en cette rentrée littéraire, cet autre Eden.
Oui, alors cet autre Eden qui est une histoire vraie aussi, complètement romancée et très bien écrite. Je commence par le positif.
Ça sent mauvais.
Non, c'est un texte assez exigeant, assez poétique, qui a des références bibliques tout du long et donc qui sont assez lourdes et compte tenu de l'histoire que ça raconte, je vais vous en parler un peu, mais une histoire qui est, qui est assez sordide. Tu l'as évoqué tout à l'heure dans ton intro, Ludo. On est donc dans l'état du Maine, il y a une petite île. Et alors déjà, il faut que je rappelle un peu le contexte historique. Hein, on est en 1794, ça fait quelques années que les États-Unis sont indépendants. Et donc on a aboli l'esclavage. Et il y a quand même des unions qui se font entre des unions interraciales. Hein, et on a un couple, donc... l'homme s'appelle Benjamin Honey, c'est un ancien esclave qui a été affranchi, et sa femme, irlandaise, ils vont faire des enfants, et ils vont trouver cette île dans l'état du Maine, une sorte de, ça s'appelle cet autre Éden, hein, une sorte de paradis, une petite île, ils vont procréer, et alors ça commence par une sorte de déluge, on est un peu en mode Arche de Noé, alors c'est glauque, hein, c'est vraiment très glauque, je vous passe des détails, il y a des bébés morts, tout ça. Et l'histoire de ce livre nous raconte l'histoire des descendants de ce couple. Les descendants de ce couple qui ont été mis un peu au banc. Ils ont donc la famille de Honey, ils vivaient en autarcie, ils vivaient coupés du monde pour se protéger un peu du racisme ambiant. Et donc, ils vivaient avec ce qu'ils avaient. Donc une extrême pauvreté, de la consanguinité. Donc, les descendants qui arrivent plusieurs années, l'histoire se passe en 1912, et donc on est avec des générations entières de pauvreté, d'indigence, du métissage. Donc étonnamment, donc l'histoire se voit aussi à travers le prisme d'un instituteur qui vient pour faire un peu le point avant que l'État, lui, vienne s'en mêler, et qui vient donc un peu jauger la population et faire un peu son rapport. Donc il fait un rapport et il explique parmi toute cette population, il y a environ une cinquantaine d'individus sur cette île, il y a trois gros surdoués, des enfants qui parlent latin couramment, un gamin qui a des appétences en art plastique mais qui fait des œuvres d'art incroyables, bref. Et d'ailleurs, ce gamin, pour arriver à le sauver, il va essayer de l'envoyer dans une famille sur le continent parce que lui, il n'est pas complètement, il n'est pas très métissé, donc il peut passer pour un blanc. Donc il va le mettre dans une famille, ça va très mal se passer. Le racisme n'est pas du tout, est toujours bien en vigueur. Et on se retrouve avec l'État qui va décider de chasser cette population pour des raisons de salubrité publique, en disant ce serait mieux d'y construire des hôtels plutôt que de laisser ces débiles, parce que c'est comme ça qu'ils les appellent, qui sont sales et qui sont contre nature, de les laisser pulluler sur cette île. Donc ils vont les expulser, ils vont déterrer les corps des personnes qui ont été enterrées sur place pour surtout ne rien... ils vont jeter ça dans des fosses communes. Donc c'est une histoire assez rude et assez sombre, une histoire vraie, qui m'a mis vraiment mal à l'aise pendant tout le long. Hein. C'était assez dur.
Oui, j'avais oublié l'aspect histoire vraie. C'est vrai qu'il faut le rappeler quand même.
Voilà, c'est une histoire vraie. Donc, c'est des sortes de portraits de survivants qu'on a dans ce livre-là. Mais c'est âpre, quoi. Vraiment, j'ai souffert avec eux.
Paul Harding qui est en train d'écrire un livre sur Gaza, peut-être.
Ouais. Ça pourrait, franchement, je ne serais pas surprise. Ouais. Voilà.
Prix Pulitzer, peut-être qu'il aurait un prix aussi, parce que les prix aiment bien ces histoires vraies qui sont un peu romancées, un peu glauques.
Ouais, c'est ça.
On verra, mais là, on n'a pas prévenu.
Mais on est très loin de l'Éden, du coup. Hein.
Ouais.
Très, très loin.
1967, Paul Harding, qui est de Boston, dans le Massachusetts. Voilà, et après, j'ai pas grand-chose à dire sur
lui. C'est son troisième
roman,
je crois, celui-ci.
Oui, voilà. Il avait quand même eu donc, le prix Pulitzer de la fiction de... Alors, en 2010, j'avais dit 2024, mais apparemment 2010. Merci, merci beaucoup, Elodie. Marlène, allez, on change du tout au tout. On part dans le sud de la France. Hein, on part à Marseille. Peu cher.
Ça va être trop bien.
Comment il pourrait s'appeler ce livre de Mathilda Di Matteo ? Il s'appelle La Bonne Mère. Tiens, et ouais.
Oh, Bonne Mère, hein, ça
j'aille. L'originalité.
Mais ouais, c'est ça.
C'est là où je ne suis pas d'accord avec Valérie.
Ah.
Non. Alors,
c'est un premier roman, je tiens à le dire.
Ouais. Heureusement que c'est une épreuve non corrigée. Je me dis, bon, peut-être il y a encore de quoi sauver des trucs.
J'ai l'épreuve corrigée.
Alors là, c'est la première fois que je n'ai pas fini un livre, déjà. L'écriture est vulgaire. J'arrive pas à lire des phrases quand le français il est écrit, c'est l'inverse de toi avec ta poésie de tout à l'heure et tout, le texte, alors là, mais pas du tout. Voilà.
Bébé.
Donc bien sûr on parle de cagole, pas de souci puisque la mère est une cagole qui s'assume et que sa fille ne supporte pas et donc sa fille rejette un petit peu voilà sa famille et est stressée un peu de présenter son nouveau compagnon à la famille. Voilà, en gros c'est ça parce qu'après je vous en dirai pas plus. Je n'ai absolument pas adhéré ni à l'écriture. Ni à la façon de raconter. Ah non, voilà. Désolée, c'est la première fois que moi c'est carton rouge. Alors vraiment. Désolée Valérie, je.
Pas de soucis.
Ok, mais non, c'est pas Valérie qui l'a écrit.
On en entend parler, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais par contre.
On est sur une même maison d'édition.
Mais,
mais les trois sont merveilleux.
Ah, j'ai pas du tout adhéré. Mais voilà.
Mais parce que c'est. Il faut aller plus loin dans ça, effectivement. L'écriture, elle est Marseille, bébé. Mais même moi, si c'est pas mon langage au quotidien, c'est pas tout ça, justement, c'est le transfuge des classes. C'est pas atroce, c'est différent. Il faut se dire, la première fois que t'as écouté Jul, non, c'est mauvais exemple.
Eh ben non, tu vois, parce que je n'écoute pas du Jul, justement.
Non, mais c'est ça, en fait. C'est pour montrer, c'est un peu aussi pour montrer qu'il peut y avoir pas forcément des belles choses. Je sais pas si Ludo, t'en as lu quelques extraits, mais il y a. Au-delà de l'écriture, qui est peut-être effectivement spéciale, ça dénonce aussi plein de choses. C'est comment on doit être pour être. Est-ce que la mode parisienne, elle est vraiment celle qu'on doit adopter à Marseille ?
Si tu veux, l'écriture,
il est pas de Paris, maman, mais de banlieue parisienne.
Mais si tu veux, l'écriture, elle est tellement atroce que je n'ai même pas accroché dans le texte. J'ai même pas voulu continuer. Donc, je suis pas rentrée dans le texte.
Parce que j'en ai plus, mais on regardera si des fois c'est pas vraiment une épreuve pas assez du tout corrigée. Mais je pense que c'est la même que la vraie.
Je propose qu'on le relise tous pour la prochaine émission.
Oui, finalement,
on
est presque
envie pour voir.
Mais vas-y. Autant je vais le vendre comme ça en disant que moi, c'est un carton rouge. Mais j'ai tellement pas pu rentrer dans l'histoire. Mais alors, non.
Moi, au départ, j'avais hésité justement ce côté. Je me suis dit, on va encore, nous, provinciaux, en prendre plein la gueule avec nos accents, avec tout ça.
Mais ça part pas comme ça, visiblement. Ouais.
Non, c'est l'inverse, en fait.
Ça part pas comme ça. Mais c'est l'écriture. Non, c'est vraiment horrible. Enfin, quand c'est le point de vue de la mère.
Ouais,
parce que la fille se veut prout-prout, ce qui est archi faux.
Oui. Mais parce qu'elle essaye justement de rentrer dans cette espèce de norme qu'on nous oblige, de la même façon qu'on a toujours obligé aux paysans qui partaient à la ville étudier de prendre les codes citadins. Et là, on va demander aux gens de Marseille qui vivent à leur façon, à eux, à la Marseillaise, d'adopter des codes qui sont pas les leurs. Et c'est ça, moi, je trouve qui est intéressant dans ce bouquin.
Lisez-le.
Ça se défend, le point de vue de Valérie aussi.
Et oui.
Je pense qu'il faut le lire.
Oui, il faut le lire, il faut se faire son propre avis.
Voilà.
C'est pour ça que tu es en train de relire Nabokov, toi, pendant qu'on parle de La Bonne Mère.
Ben oui, absolument, parce que j'ai lu un livre sur Nabokov, de Sybille Grimbert. Alors, Sybille Grimbert, c'est son deuxième
livre. Quel est le titre de ce livre ?
Il s'appelle « Au pays des Pnines ».
Pourquoi Pnines ?
Parce que Pnines, c'est un personnage du roman de Nabokov. Et donc, elle a écrit un livre sur ce personnage. Qui est un peu tête en l'air, qui fait tout à l'envers. Et donc, elle est écrite si ce pays existait vraiment, ce pays avec que des pnines, ben elle va les rencontrer et elle explique un peu ben, comment ils sont, qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Voilà, alors n'ayant pas lu le livre de base, j'avoue que j'étais un peu perdu, ça m'a un peu...
Ah mais je croyais que tu m'avais dit j'adore Nabokov, c'est pour
mais
ça
non,
que je t'ai donné celui-là.
Non, j'ai pas lu Nabokov,
moi.
Donc c'était un peu longué, quoi. quoi. Alors, elle en parle un peu de temps en temps. Par contre, c'est une très belle écriture. C'est très drôle. C'est ça. C'est un peu. C'est parce que le personnage l'est aussi. Et je le conseille à tous les amoureux de Nabokov.
Ben voilà.
Au pays d'Epnine de Sybille Grimbert, qui est aux éditions. Premier parallèle que je ne connaissais pas. Peut-être tu peux en dire un mot de
Absolument
cette maison
pas.
D'édition. Voilà. On est d'accord. Mais voilà, on change de style d'écriture. Alors, je rappelle aux gens qui ont la wildcard que je ne vais pas leur donner la parole, qu'il faut qu'ils la sortent à un moment ou à un autre. Hein, on est bien sûr d'accord.
J'arrive pas à comprendre que pendant la rentrée littéraire, des gens aient la wildcard.
Ouais, et je dis bien...
Il paraît qu'il y en a plusieurs.
Et puis, il y a eu un trafic avant que tu arrives.
Oui, ouais. non, mais
je veux pas dénoncer personne, mais...
Des gens. Allez, on va faire une première pause musicale avec le titre Suis Naze. Je sais pas pourquoi j'ai choisi ce titre. Sinon, que c'est un groupe Les Rancards qui est passé au Marvelous Pop Festival et qui était fortement sympathique. Et c'est parti.
Changer l'humanité. Je veux être tranquille, stopper tous mes rêves et mes idées. Je veux être tranquille, plus penser à faire quoi que ce soit. Je suis naze. Des valises à faire. Mais pourquoi bouger au fond, c'est loin, c'est plus facile rester. Dehors il fait beau et ça m'épuise aussi. Tous mes désespères, les gens, mes nuits, je veux rentrer.
Super musique, on remercie le Marvelous Pop Festival de nous faire découvrir des super artistes. Eh ben, ça nous change de la dernière émission, on a eu Indochine. Hein.
Qui a mis Indochine à la dernière émission?
C'est toi qui avais choisi, il me semble. Non. Alors, j'avais pas prévu, mais on va en parler. Un livre, Élodie, que tu as lu et que Valérie a lu aussi, c'est La vocation, non, c'est ça?
De Chloé sa fille.
Chloé sa fille.
Oui.
Allez, on rajoute des livres.
Alors, c'est fous. Surtout que Valérie a mis entre mes mains pas plus tard que vendredi.
Ah. C'était pas dans les mains.
Aucune préparation psychologique sur ce livre. Est-ce que tu veux le pitcher, Valérie, ou est-ce que je fais
qu'il y avait un enfant.
Est-ce que je m'en occupe, Valérie, ou est-ce que
Mais vas-y, comment pitch. Tu peux lire un livre alors que tu l'as lu vendredi?
Je l'ai lu pendant le week-end avec une grande attention.
On n'a pas eu le même week-end.
Avec une grande tension.
Alors oui, non, oui, un peu de tension, effectivement. Alors donc Chloé Safi, qui est auteur de romans érotiques
à la Musardine,
voilà, et qui est passionnée de BDSM.
Ce qui signifie.
Alors, bondage, discipline et sadomasochisme. J'ai vérifié parce que je ne savais pas quoi servait le D.
Donc, du coup, il a fallu que j'aille vérifier.
Pas bouger,
exactement. Donc, c'est un livre qui ne parle pas de sexe, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Moi, je l'ai vécu un peu comme un documentaire. Il parlerait plutôt de servitude.
Oui, c'est ça.
De servitude et d'emprise. Et d'emprise psychologique sur une personne.
Plus que psychologique.
Plus que psychologique, oui. On va vous raconter un peu cette histoire de. Donc, on est. C'est Chloé Safi qui nous raconte un peu comme un documentaire qu'elle a été contactée en tant qu'auteur érotique sur les réseaux sociaux par une jeune femme.
Une émission littéraire, un livre sur le zinc.
Mais par une jeune femme qui a attiré son attention, qui s'appelait donc Salomé. Elle a changé de nom au cours de l'histoire et donc après elle s'appelle Sixtine. Et donc, cette femme qui. Donc. Chloé Safi est elle-même adepte de SM. Du coup, les photos de cette femme l'ont intriguée. Et elle va lui faire raconter son histoire pendant 4 à 5 ans. Et elles vont avoir une sorte d'échange épistolaire où elle va lui raconter un peu sa transformation et comment elle en est arrivée là. On commence avec cette jeune femme qui est assez introvertie, un peu en mode une noix blanche. Hein, on va dire un peu ça, qui travaille dans une entreprise et qui va se faire repérer par ses responsables hiérarchiques. Incroyable. Et elle va commencer donc à poser sur des photos un peu suggestives. Et ils vont, au bout d'un moment, lui proposer de venir servir chez un couple de bourgeois. Alors, on imagine que c'est un peu en région parisienne, quelque chose
on
comme
imagine,
ça.
On imagine, oui, bien.
Ouais, c'est, voilà. On est en région parisienne et on a donc un couple de bourgeois qui va en faire donc, bon, sa boniche. Hein, mais une boniche, comment dire. Alors, ils vont
je
lui
crois
poser.
Que tu n'as pas besoin de dire.
Non, on a pris le sourire et ta couleur
il
des
va falloir qu'elle signe un contrat. Un contrat de confidentialité, un contrat de servitude, et elle va devenir la chose de ces personnes, de ce couple.
C'est-à-dire qu'on lui demande de laisser, avant de rentrer dans ce domaine, ses amis, son téléphone, son identité,
ses objets personnels,
son libre arbitre. Et voilà. Tout. C'est-à-dire qu'elle a même plus le, on lui autorise même
elle
plus
change de prénom, donc.
D'avoir des pensées, d'avoir des avis. Elle n'a plus le droit à rien. C'est pas juste un côté. Pour faire du ménage ou pour avoir des relations
intradues. Et c'est quelque chose qui est assez effacé finalement, hein, les relations sexuelles, il n'y en a pas tant que ça. Il y a pas de, finalement, c'est pas du tout c'est vraiment l'emprise sur cette personne qui intéresse ce couple. Et on ne sait jamais pendant. Alors voilà, et ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que pendant tout le roman ou tout le livre, elle se pose la question, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ? Et elle a une écriture très journalistique, ce qui fait que du coup, c'est beaucoup plus vivable et crédible, et du coup, on arrive à absorber l'horreur de la situation. Et elle nous raconte tout ça, et tout le temps, elle se dit, mais elle me balade, c'est pas possible, personne ne peut supporter ça. Elle raconte qu'elle est envoyée dans des camps de redressement, on va dire, où elle vit à moitié nue, sur des talons aiguilles de 12 cm, à faire des travaux d'intérêt général, elle la fout dans le panier du chien, enfin voilà, c'est vraiment très glauque, hein, vraiment très très glauque, et c'est glissé de façon journalistique. Alors, c'est pas un livre qu'on lit pour la beauté littéraire, hein, pas du tout.
C'est
bien écrit.
C'est un essai.
C'est plus un essai. On est vraiment dans de l'information presque, et on se dit comment ça peut exister, jusqu'où peut aller la perversité humaine. Et même cette auteure qui elle-même est adepte de SM, même elle dit, mais elle est choquée. Ça va au-delà de ce qu'elle pourrait imaginer elle. On n'est plus dans de la pratique, on est vraiment dans de l'asservissement. Mais c'est intéressant. Moi, j'ai appris des trucs. Je savais pas. J'ai appris des mots sur des objets en cuir, sur des trucs vestimentaires. Il a fallu que je cherche sur Internet. Je ne savais pas.
Historique au boulot.
Historique ou est-ce
voilà. J'ai cherché chez moi. Je te rassure.
Comment ça va?
Non, j'ai appris plein de nouveaux mots. Voilà.
Elle a commandé un perfecto là pour la rentrée.
C'est cela. Avec les fringes.
Voilà. Donc à lire avec beaucoup d'ouverture d'esprit.
D'accord, mais c'est une fiction ou c'est tiré de...
Alors a priori c'est vrai.
Ah oui.
Et a priori on est un peu dans du syndrome de Stockholm où cette personne ne souhaite pas qu'on la sorte de cette situation. Elle ne se voit pas revenir dans un monde réel et revenir.
Non, en même temps, donc, t'imagines comment tu reviens au monde réel.
Mais c'est ça, elle dit c'est un réadaptation. Mais surtout qu'il la change physiquement. Ils vont lui faire subir de la chirurgie esthétique. Ils vont lui. Elle a la langue coupée, des seins refaits, mais sur des oreilles en pointe comme un elfe. Enfin, il la modèle. Il modèle son physique aussi.
Comme
il est complètement. Voilà, comme selon. Mais comment elle a selon pu Beauvoir.
Contacter, enfin, si elle est dans cette prison, alors, elle a quand même pu
alors,
parler.
C'est pas vraiment, alors, elle appelle ça une prison dorée, mais il la laisse avec. Elle a quand même le droit de poster. Elle a quand même le droit de poster des choses sur Instagram. Et ah, c'est oui. comme ça qu'elle échange avec. Okay. Mais alors, elle le fait discrètement. Elle veut pas dénoncer. Elle donne pas de nom. Elle donne pas de lieu. Elle reste, elle veut quand même être anonymisée.
Mais elle a coupé avec son, voilà. son passé.
Elle sait
par
que
voilà. le libre arbitre, le passé, la famille, elle n'existe voilà. plus.
Elle
plus
sait que l'auteur écrit un livre sur elle, mais elle dit ah oui, mais à condition que. Et cet ouvrage se finit où elle la laisse dans cette situation. Et donc on imagine que. Enfin, jusqu'à 2024, donc on imagine que c'est encore le cas aujourd'hui, qu'il existe ce genre de situation en France, du coup. Voilà, j'invite les gens quand même à le lire, c'est instructif. Voilà.
C'est la nature estivale entre ça et l'autre.
Je te remercie Valérie de cette découverte.
Avec plaisir, écoute. Ouais.
On va faire une expédition avec Thomas, on va aller la libérer. Hein, on va essayer de trouver
où elle est. Vu l'état dans lequel elle est.
Ah, je crois qu'il y a une wildcard qui sort.
Je sors ma wildcard, mais oui, parce qu'il fallait que je le fasse. J'ai le droit, c'est ma première.
C'est ta première.
C'est grâce au livre que tu as choisi que tu as la wildcard.
Ça fait un an que je suis là.
C'est vrai. Moi, je ne l'ai jamais eu. Enfin, je l'ai eu une fois, j'ai oublié.
Mais normal, tu ne lis pas.
Mais je crois que c'est dans le contrat du CDI, j'avais une wildcard.
C'est
j'ai
ça.
J'ai pu le choper comme ça, je crois. C'était parti de... Voilà. Donc, effectivement, moi, j'ai pas vraiment fait mes devoirs correctement vu que je suis un jeune qui n'aime pas lire, qui scrolle sur TikTok et... J'ai passé mon été à faire des mots fléchés. Par contre, si...
ça, c'est bien, par contre. Force 4
3, 4, ça dépend des éditions. Je commence à savoir quelle édition faut prendre, pas prendre. Si jamais on fait une émission max. Sur les mots fléchés, alors là, je viens tous les jours. Voilà. Pourquoi pas.
T'as déjà eu les fleuves avec une seule lettre
Deux lettres, je l'ai. Il y en a
le mot
Il y a le pot ou le AA, ouais. Souvent non, aussi, aussi, Rivière du Nord.
Valérie, nous sommes en émission, pardon. S'il te plaît.
Et ça intéresse, je pense, nos auditeurs auditrices, les mots fléchés.
On se fera une émission mots fléchés.
Donc, j'ai quand même lu un seul livre cet été qu'une amie m'a conseillé, parce qu'effectivement, je ne suis pas un très grand lecteur, et elle m'a dit, voilà, c'est un livre que j'aime beaucoup. Donc, j'ai lu Des fleurs pour Algernon. Il faut le dire à la française.
Moi, je dis Algernon, mais...
Algernon.
Algernon.
Moi, j'ai vu.
Comme ça, c'est les Bretons.
J'ai vérifié aussi sur YouTube et des gens disaient Algernon. Je me suis dit, je vais le dire à l'américaine. Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. C'est un roman paru en 66.
Belle rentrée littéraire.
Oui, des nouveautés.
Ah, oui,
Il sera peut-être réédité, tu me diras, on ne sait pas.
Qui est il me semble, le premier roman de Daniel Keyes qui avait d'abord sorti. En fait, ce roman-là, je ne sais pas si je prends le fil un peu à l'envers, mais et d'abord une nouvelle sortie 10 ans plus tôt, et une nouvelle très très courte de quelques pages, qui avait été très récompensée et vue, et des années plus tard, il en a fait une version plus grande, un roman. Et donc, Des fleurs pour Algernon, alors que c'est quand même, moi je m'y connais, c'est quand même un grand roman assez connu, il me semble,
c'est voilà. C'est un classique de la SF.
Moi, c'est le livre que j'ai en permanence à la SF.
Ah bah voilà, on est d'accord.
Pour les ados,
c'est ce qu'on j'ai pu comprendre que c'était un classique.
Ouais.
Je vais raconter dès le début, on le sait, hein, voilà, ça parle de l'histoire de Charlie qui est une personne attardée mentalement et qui travaille comme ça dans une petite entreprise, et un jour il va être choisi comme cobaye pour une expérience psycho-chirurgicale parce qu'on a réussi à sur une petite souris, donc Algernon, à la rendre plus intelligente en lui mettant des... On ne sait jamais trop ce qui s'est passé dans cette opération-là, mais on a réussi à la rendre plus intelligente que les autres souris blanches. Et on s'est dit, bah, maintenant, on va tester ça sur des hommes et on va le tester sur une personne attardée parce que c'est pas grave si ça se passe mal. Et puis, et dans tout le cas, on verra bien si le résultat marche bien. Donc ça, on le sait dès le début. Et donc, le roman, il est c'est sous forme de compte-rendu. En fait, dans l'histoire, les chirurgiens et les psychiatres, psychologues qui le suivent lui disent plusieurs jours avant l'opération et après, durant toute l'après-opération, de régulièrement faire des comptes-rendus pour qu'on puisse se rendre compte voilà ce qu'il pense. Et ça devient un peu son journal intime. Et c'est comme ça qu'on va suivre l'histoire donc, de Charlie. J'ai bien aimé ce roman.
Et ça marche ? Il devient plus intelligent ?
Oui, alors ça paraissait pas un spoil de le dire dès le début. L'opération marche bien, effectivement, il devient même un génie. Tout à l'heure, on parlait un peu, justement, ça recroise un peu différents thèmes dont on a parlé. Tu viens de parler de déshumanisation. Tout à l'heure, on parlait de transfuge des classes avec La Bonne Mère. Ça parle un peu de tout ça, ce roman, en fait, une fois qu'on passe, voilà, donc l'opération fonctionne et il devient un génie. Et bah, c'est un homme qui un peu se réveille et se rend compte le regard des autres avait sur lui avant, pendant qu'il était attardé, donc il s'est dit, mais en fait, c'était pas des amis que j'avais, les gens se moquaient de moi. Mais en fait, son intelligence se développe tellement où il se rend compte, c'est un peu Matrix, quoi. Il se réveille et il voit derrière la matrice ce qui se passe dans la société. Et donc, c'est vraiment, voilà, ça parle de tout ça, beaucoup de références, de réflexions autour de l'intelligence. Ça me fait penser à moi, l'expression des fois, on dit. C'est quoi, c'est pas. Y a que les abrutis qui sont heureux, ou voilà, il y a un peu cette réflexion-là de se dire qu'en devenant intelligent, en élevant sa conscience.
On voit trop de choses.
On voit trop de choses et on finit malheureux. Mais du coup, il a quand même aussi tout ce parcours-là de découverte de la vie, de tout ce qu'il peut faire. Donc, on sait jamais trop si à la fois il remercie les gens de l'avoir fait vivre. C'est cette opération-là qui lui a permis de voir plein de choses, apprendre plein de choses. Il parle à la fin, je sais pas combien de langues, etc. Je raconte pas la fin du livre, mais c'est assez fourni. Par contre, dans l'écriture, parfois, il y a des gros blocs où ça décrit beaucoup de choses pour montrer à quel point il est intelligent. Il y a tellement de mots utilisés. C'était parfois un peu lourd, mais c'est drôle aussi. Il y a des moments, quand il apprend à écrire notamment, c'est assez rigolo. Il y a un compte-rendu, donc tu vois, jour par jour. Et là, ça maîtresse quasiment, parce qu'il apprend à écrire. Lui apprend. Donc il dit, aujourd'hui, j'ai découvert... je crois qu'il dit, aujourd'hui, j'ai découvert la ponctuation. Donc il en met partout. Et après, le lendemain, ils disent, en fait, ma maîtresse m'a dit, il faut pas en utiliser autant. Et on voit qu'il s'est un peu temporé dans... Donc c'est marrant, il y a deux, trois trucs comme ça qui m'ont fait rire. Ouais, voilà, donc c'est un classique, effectivement. Après, d'ailleurs, il a été rédacteur d'une revue d'anticipation, donc je pense qu'il aimait bien. Voilà, c'est de l'ASF. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ça se passe à New York, il est écrit né à Brooklyn, effectivement. On voit bien ce New York de l'après-guerre, ça se passe là-dedans.
Et c'est chez J'ai lu.
J'ai lu, effectivement. Voilà, voilà.
Qui parmi vous a lu ce livre?
Moi.
Alors, il y a une nouvelle règle cette année. La personne qui a lu un livre présenté par une wildcard peut ou choisir le thème de la prochaine émission ou avoir une wildcard pour la prochaine émission.
C'est
on te laisse réfléchir.
Eh
ouais, c'est
tu changes les règles
sans
qu'on
le sache. Chaque émission, il rechange une règle.
En 10 ans et puis tout le monde a lu autre chose. Donc je vais prendre une wildcard.
Quand est-ce qu'on a fait ça?
Valérie, il me semble que tu avais lu La vocation de Chloé Safi.
J'avais lu La vocation.
Je pense que tu peux.
En fait, je pense que tu as lu tout le monde.
J'ai lu aussi La Bonne Mère.
Non, mais c'est pas une wildcard.
Je pense que Valérie, à chaque émission, aura une wildcard.
Celui qui a lu la wildcard, pas celui qui a lu un autre livre de l'émission.
Ce que j'allais oublier, mais je rajoute une dernière chose à propos de cet ouvrage. C'est vrai que tu dis que c'est la version, l'édition J'ai lu, c'est l'édition augmentée. Oui. Donc en fait, ce qu'on a en plus, c'est qu'on a après un peu toute une. Enfin, un passage un peu biographique de l'auteur qui raconte comment il a écrit. Donc c'est là qu'on apprend un peu, ça donne un peu des clés de compréhension une fois qu'on a lu le roman. Le côté transfuge de classe lui raconte bien que voilà, par rapport à ses parents, il a fait des longues études. Et qu'à un moment, on peut se sentir un peu déconnecté parfois par rapport à ses amis, sa famille. Et puis à la toute fin, on a justement la nouvelle qui avait été publiée 10 ans plus tôt. On a la nouvelle, on a la petite version et on peut comparer entre le roman et la nouvelle, qu'est-ce qui a changé.
Ok. Voilà. Édition J'ai lu. Très, très belle édition qui a sorti des bons livres.
Ça. Tu peux t'abstenir, on serait pas indirect.
C'est pas, j'aurais dit c'est tu pas coupes, j'ai lu, franchement. C'est pas j'ai lu, Joël Bat.
Si, gardez de ma vie.
Ah, merci quand même.
Non, on avait dit que carton rouge celui qui parlait de ça.
C'était l'édition illustrée 1984 de Joël Bat, gardien de ma vie.
Et toi, tu as une perche.
Mais bien sûr, je la prends au vol.
Allez, Valérie,
je la prends au vol comme un but arrêté par Joël Bat.
Parle-nous plutôt de La Chambre Forêt de Chiara Mezzalama.
Je vous aurais bien parlé de Joël Bat, mais vu les regards que vous me lancez, je vais pas en parler. Chambre Forêt, c'était le livre que je ne devais pas lire. Rentrée littéraire, on présente un peu tous les auteurs, les livres à venir. Et je ne suis au départ pas touchée. Il faut que j'arrête de parler, de dire des vérités, parce que je me rends compte que les débuts sont compliqués.
Ils vont plus t'inviter. Cette émission n'est pas ton journal intime.
Oui, mais je ne sais pas mentir, c'est ainsi. Et donc, en fait, je vais pour récupérer des services de presse, donc pour lire avant la rentrée littéraire. Et je ne vais pas pour prendre ce livre, mais je m'appuie sur la pile où il y a ce livre. Et je commence à le lire pendant que je faisais la queue. puisque je n'ai pas TikTok, donc je ne peux pas scroller, cher Thomas. Et je commence à lire et j'avance dans la queue en le lisant. Je finis le premier chapitre et je finis le deuxième chapitre. Et le soir, en rentrant à l'hôtel, j'ai fini le livre. Un coup de cœur, une claque, une baffe. C'est un roman qui, dès la quatrième de couverture, dit beaucoup de choses. On sait que ça va être triste. On sait que c'est une histoire d'amour qui va mal. Enfin, qui va aller mal. En fait, elle raconte l'histoire. Alors, j'ai mangé les noms, je suis désolée, je n'ai pas de notes. C'est Olivier et Clara, peut-être ? Ben oui, Clara, on va l'appeler, puis c'est l'autrice, Clara. En fait, ils se rencontrent, c'est deux adultes, hein, je crois qu'ils sont quinca à peu près. Ils se rencontrent, c'est un gros coup de foudre, un coup de foudre physique, psychologique, enfin, vraiment quelque chose de très fort, très puissant. Sauf que Clara, Chiara, je sais, il faut que je rate le nom.
Chiara.
Chiara, merci. Elle a fait le deuil de son couple, mais Olivier, non. Lui, il est encore en couple avec des enfants petits. Et...
Non, ton téléphone, juste, ça fait quelques interférences.
Pardon, c'est bizarre. Hop là, voilà, je le jette et je prends le livre discrètement pour m'aider. Hop là. Et donc, Chiara, oui, c'est ça. Et donc, en fait, ils vivent une histoire très, très, on pourrait dire, non autorisée, qui n'est pas dans les bonnes mœurs, très intense, très, très, très charnelle. Et le Covid arrive par-dessus. Et donc, ils sont obligés de mettre un terme, non pas à leur relation, mais à leur rencontre physique. Ils s'envoient des paroles de chansons, ils s'envoient des poèmes, ils s'envoient des messages, des vidéos, des ressentis. Mais ils ne peuvent plus se voir. Et le jour où ils doivent se revoir dans leur chambre forêt, hein, le titre du livre, Olivier ne vient pas au rendez-vous. Qui était prévu alors que tous les deux avaient une hâte. En fait, la hâte que décrit Chiara dans son livre, elle écrit à la première personne, j'accélère, on me fait signe d'aller plus vite, donc je passe en x2. Et cette hâte-là, en fait, elle est coupée nette parce qu'Olivier ne se présente pas, donc à leur rendez-vous.
Non.
Si, si, si. Non. Si. Pleure. Olivier est mort. Voilà.
Le salaud.
Je m'attendais pas à ça.
Donc, je reste bouche bée.
Mais maintenant que tu nous as dit qu'il était mort, il y a encore un intérêt au livre.
Ah, mais totalement. Parce que tu le sais, dans le quatrième de couverture, je crois que c'est marqué.
C'est un deuil d'une relation adultère.
Troisième phrase du quatrième de couverture. D'accord. C'est, mais c'est la mort qui frappe à la porte, hein, au lieu d'Olivier. Et en fait, elle reprend tout ça. Mais c'est d'une beauté.
Salaud, il est mort.
Ouais. Moi, ça m'a pris aux tripes, en fait, parce que c'est cette rentrée littéraire, on parle beaucoup des mères, mais aussi on parle beaucoup d'amour. Et il y a eu deux romans qui m'ont fait plaisir parce que je me suis dit, ah, punaise, enfin des romans d'amour pour adultes. Il y avait Dans la chambre forêt, il y a Impuissance, dont on parlera tout à l'heure, si on a le temps. Et c'est vraiment quelque chose qui est fort, qui est vrai, qui est pas mielleux, qui est pas gnagnant, hein, excusez-moi pour les termes, mais c'est ça, et c'est très fort parce que elle, on a que son point de vue à elle, on ne sait pas comment lui vivait le truc, mais c'est absolument magnifique et c'est pas elle à la base, je ne sais pas si Ludo l'a dit parce que je n'écoute pas quand il parle, mais elle est autrice de livres jeunesse en temps normal, si je ne m'abuse.
Je n'ai pas encore fait la biographie, mais voilà. Je n'ai plus le temps de la faire maintenant.
Mais ça passe trop vite le temps là, ras-le-bol.
Allez, merci beaucoup Valérie. Alors tout à l'heure je parlais de prix Pulitzer 2024, je m'étais trompé, c'était le 2010, parce que le 2024, c'est pour Nightwatch, non publié en France, de Jane Anne Phillips, mais on ne va pas parler de Jane de Nightwatch, on va parler des Sentinelles.
Ah oui.
Qui est le nouveau roman 2025 de cette rentrée littéraire.
Mais non, mais en fait, Nightwatch, c'est Les Sentinelles.
D'accord, voilà. C'est le même. C'est la même. Donc, il a été traduit en France. Je me suis... Ah ouais, non.
Désembrouille le truc.
Voilà.
Désembrouille, Nightwatch et Les Sentinelles sont le même livre. Hein.
On est d'accord.
Voilà. Pas la même langue.
Nightwatch qui a eu le Pulitzer 2020.
Voilà. Le Pulitzer 2024.
Mais qui n'était pas traduit l'an dernier, ouais. Qui arrive enfin
ça
chez nous.
Ça a mis vachement de temps, et puis tu vois, c'est chez un
C'est l'avantage d'être bilingue.
Ouais.
Ou pas.
Ou
Orphan, ouais, Nightwatch, les Sentinelles, je n'aurais pas trouvé. Hein.
Ah bah si, 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 quand même.
Tu sais, il y a la lumière et la nuit, là.
Okay. Eh bah écoutez, bon, vous allez dire, c'est un peu facile de dire, ah c'était génial, c'était le Pulitzer 2024, évidemment, c'était génial. Oui, mais...
C'est pas si facile.
C'est mérité.
Ah, non, non, c'est pas si facile, parce que ça peut... Non, ça ne peut pas ne pas être génial, mais bref. Qu'est-ce qui est très chouette dans ce bouquin ? Bon, on est... Le départ, on est guerre de sécession. La guerre de sécession a fini à 3-4 ans et Elisa et Connally, une maman et sa fille, se font accompagner par papa. Donc déjà, tu sens le truc malsain, papa, tu vois. Enfin non, non. C'est la façon de l'appeler papa, avec un P majuscule, etc. Papa les accompagne dans un asile, pour visiblement.
C'est plus l'asile que papa qui est flippant.
Ouais, bah papa aussi est ultra flippant. Papa avec un P majuscule.
Qui amène qui à l'asile et pourquoi?
Papa amène les filles à l'asile, en gros pour se débarrasser d'elles. Et en fait. Moi, je m'attendais à l'histoire de Connally et sa mère dans l'asile, mais c'est bien, bien plus que ça. C'est un aspect du bouquin, mais en fait, c'est l'histoire de Sentinelle. J'ai mis du temps à ressentir ce titre de Sentinelle, mais en fait, c'est toutes ces personnes qui veillent sur les autres, qui veillent sur ce qui se passe, à prendre soin. Et en fait, ce livre, c'est un livre de personnages. Alors, il y a cette Connally, là, cette petite fille, elle doit avoir 12 à peut-être 15 ans dans l'histoire, et elle prend soin de sa maman, qui ne parle plus depuis que le papa, avec un P minuscule, qui n'est pas le même papa, est parti à la guerre et n'est pas revenu. Elle ne veut plus parler, elle est perdue, elle ne sait plus où elle en est. Donc Connally, qui a 12 ans, prend soin de sa mère et de ses petits frères. Il y a Dirbla, une espèce de... il y a un côté soigneuse, chamane, irlandaise, qui prend soin de tout le monde. Elles vivent recluses dans la montagne avant d'aller dans cet asile. Toutes les trois, chacune dans leur cabane. Et donc, elles prennent toutes soin les uns des autres. C'est toutes... Alors, Sentinelle... Bon, il n'y a pas de traduction qui me convient.
Bienveillante, c'était déjà utilisé pour un
livre sorbide. Il y a peut-être un mélange des deux. Bienveillante et Sentinelle qui serait beaucoup plus adapté parce que, en fait, voilà, c'est tous ces personnages...
Les veilleuses,
peut-être. Voilà. Ouais. Qui veillent, voilà, les uns sur les autres. Un médecin dans un hôpital, ça va être une cuisinière la cuisinière de l'hôpital qui est très bourrue, mais qui a ses 5 petits orphelins dont elle prend soin. Et tout ça sur fond, étonnamment, du vrai travail d'un médecin, le docteur Kirkbride, je crois, qui a été hyper pionnier dans le traitement des maladies mentales dans un hôpital qui est l'hôpital dont on parle dans ce bouquin, on doit sortir les malades, on doit faire de l'activité dehors, qui a fait des choses hyper novatrices pour son époque. Donc il y a une espèce de mélange historique sur l'histoire de la psychiatrie, mais c'est pas vraiment le but du livre, c'est vraiment une toile de fond, et cette histoire de gens qui s'occupent les uns des autres, le papa avec un petit P, avec un petit P minuscule, qui vit la guerre et qui décide d'effacer sa mémoire parce que c'est trop, mais du coup qui efface du même coup sa femme et sa petite fille. Enfin, on revient sur plein de choses et c'est plutôt touchant, c'est des gens
De la belle nostalgie. C'est sur combien d'années l'histoire, à peu près?
Un petit peu avant la guerre, donc les dates de la guerre de sécession, tu me pièges un peu, mais...
Combien de temps ça dure?
1874, ça commence.
Sur 5 ans, on va dire que ça s'étale.
1874, pendant 12 ans.
Il y a beaucoup d'allers-retours dans ce qu'on considère le passé, le présent et l'après. Et en fait, c'est une histoire de personnages qu'on a tous envie de connaître. On a envie d'en prendre soin, mais on a aussi envie qu'ils prennent soin de nous. Et voilà, les sentinelles, je suis moyennement emballée par la traduction, mais je ne sais pas si on a un bon français.
Moi, je l'aurais appelé Nightwatch. personnellement. Bah,
peut-être. On aurait pu garder le titre en anglais. Mais moi, bon. Ça me fait penser par moments à Thomas Mann. Je ne sais pas si tu avais lu la...
C'est ce qu'ont dit les critiques.
Ah, c'est vrai
ah. Ouais, c'est ce qu'ont dit les critiques, pardon.
Quel
ouais,
mytho.
Que c'est... Non, non, je te non, promets. Je te jure, bah, mais... je fais les bio. Eh,
tu sais, Thomas Mann.
Ok, d'accord. Ça,
mais un ouvrage particulier de Thomas Mann, je ne sais plus
la
lequel.
La Montagne Magique.
La Montagne Magique.
Le ouvrage, si je puis dire.
Non, tous ses ouvrages sont fabuleux.
Oui, mais celui-là est particulièrement majeur. Et c'est pareil, c'est dans une montagne, c'est un sanatorium, des
ah ben ouais,
de,
oui.
de vie en communauté, avec une intrigue aussi, mais on a wildcard la prochaine fois, Thomas Mann. Excusez-moi.
Mais c'est à lire parce que bon, l'écriture est de qualité et c'est surtout, on a envie de les connaître, tous ces gens. Moi, j'aime bien ces histoires de, voilà, de un peu saga familiale. Mm-hmm. C'est un peu réducteur, saga, c'est pour ça que j'ai du mal à l'utiliser. Mais voilà, oui, c'est à lire et c'est...
Et à relire. Valérie, ton téléphone, il sonne encore, s'il te plaît. merci beaucoup, Pauline. Marlène, un sujet un peu plus léger. Retour à Balbec de Renaud Meilleur. On peut aller vite hein, sur les derniers ouvrages, si ouais. vous en voulez.
Ah, mais c'est dommage,
si
parce que
voulez,
celui-là,
pardon.
Il était bien.
Si t'as pas aimé, tu dis, j'ai pas envie d'en parler, point.
Et j'ai peur maintenant quand je te donne la parole.
On se fait tous engueuler,
On se fait engueuler.
Voilà. Je prends des mails demain matin des maisons d'édition à la rédaction.
Ouais.
Non, si t'as aimé,
non, celui-là il est super. Ouais, ouais, celui-là il est super.
Mais
non, non, pas du tout. C'est, je cherche juste pour parce que c'est une histoire en fait qui.
Dis-nous le titre.
Saint-Bric, ben, il l'a dit. Je retour à Balbec. Donc en fait on est donc c'est un pianiste virtuose, mais un grand virtuose qui joue beaucoup du Debussy, qui du coup du jour au lendemain s'arrête. Parce que la femme pour laquelle il jouait, sa grand-mère, qu'il a élevée, est décédée. Et de ce jour-là, il a décidé de ne pas aller faire son concerto et de plus du tout jouer. Et il décide en fait de retourner à Balbec, un endroit où il allait avec sa grand-mère quand il était petit. Et là, il va faire plusieurs rencontres décisives. Il va en revisitant les lieux, en se rappelant un petit peu tout ce qui se passe. Donc en fait, le roman, il est écrit vraiment autour de la musique, du piano, des paysages. Voilà, tout ce côté musical revient tout le temps. Et en fait, en repassant un peu partout, dans un ancien hôtel dans lequel il n'allait pas avec sa grand-mère, mais où il allait sur la plage juste devant l'hôtel et où il voyait des gens, etc., il aperçoit sur le balcon en fait une petite dame. Au fur et à mesure, ils vont faire connaissance, etc., etc. Et elle va lui redonner le goût de rejouer du piano. Elle va d'ailleurs le faire jouer sur un piano qui a appartenu à des grands noms, donc Debussy, etc. Et donc il va jouer, il va aimer, il va rejouer pour elle, etc. De ça s'imbrique aussi elle son histoire parce que c'est une personne qui vient donc qui est asiatique qui bon bref a été exilée etc. Elle va lui raconter un petit peu tout ce qui se passe et chez elle enfin dans la chambre de l'hôtel où il la rencontre souvent pour jouer il va découvrir des cartes postales son histoire etc. Et il y a des cartes postales qui vont attirer son attention avec le nom d'une certaine personne et un jour cette mamie est plus là. Et on pige pas pourquoi, parce que ben elle est plus là, on comprend pas. Et lui, en fait, il se réveille dans une espèce de rêve où en fait, il sait pas s'il a rêvé, pas rêvé. L'hôtel est fermé, la personne n'est jamais là. On lui dit, mais t'es complètement fou, l'hôtel, ça fait 20 ans qu'il est fermé. Enfin voilà, donc il est dans une espèce de brouillard comme ça où hop, il rejoue, mais finalement, il rejoue pas. Il veut aller refaire un concert parce qu'on... Il est très, très connu et du coup, il veut faire, mais non, ça marche pas. Enfin voilà. Et puis il va dans une librairie, donc voilà, il trouve la personne des cartes postales. Non, non, mais il trouve la personne des cartes postales qui a écrit des livres, il va lire ses livres, et puis il va rencontrer la petite libraire qui va lui raconter sa vie. Et on se demande si la petite libraire, c'est pas la petite mamie. Enfin, c'est tout un enchaînement comme ça. En fait, on est dans une dimension parallèle. Enfin, c'est assez étrange, tout s'imbrique, mais c'est très bien écrit. On se prend au jeu et voilà. Et en fait, et on découvre aussi un tout petit peu de son histoire que j'ai pas dit qui compte un chouïa. C'est que du coup, il est arménien et lui, le petit lien aussi avec cette mamie qui vient d'Asie, c'est que lui aussi, il a une histoire d'expat dans sa famille, etc. Et donc voilà. Mais c'est très, c'est musical, c'est sympa. Et même nous, à la fin, on ne sait plus où on en est. Voilà.
Bon, tu conseilles.
Mais oui, il est très bien.
Mais tu me rassures, Marlène. J'ai peur. C'est chez quelle maison d'édition ? Ok. Élodie, tu veux dire un rapide mot sur Chasseur d'été de Sofiane Kallois, son deuxième roman.
Oui, parce qu'on est sur la
rentrée
quand même. Ouais. Elle est assez rapide. Ça,
c'est une vraie rentrée littéraire.
Une vraie rentrée littéraire, c'est pour ça que j'en parle, surtout parce que la couverture m'a un peu attirée. Elle est assez colorée, elle est assez jolie.
Pourtant, c'est une épreuve non corrigée comme La Bonne Mère.
Alors oui, alors peut-être que c'est pas le
pas le même éditeur.
Peut-être pas la couverture définitive, j'en sais rien. C'est un roman assez tendre, assez pudique, assez nostalgique. On est à Bloigne, en région parisienne. Et on nous raconte l'histoire dans les années 90 de Dan, qui en fait s'appelle Ramadan, je ne sais pas comment, voilà, c'est qui est d'origine marocaine, un jeune. Il nous raconte son histoire de jeune un peu de la cité qui va traverser, se faire des copains de l'autre côté du canal, dans les quartiers un peu plus favorisés. Et on le suit sur une paire d'années avec tout un groupe. C'est écrit de façon très simple mais très fluide. C'est un prof de lycée ou de collège qui écrit ce livre. On voit qu'il fréquente beaucoup d'ados parce que la lecture est placide. On voit qu'il se passe rien. On se languit, on joue au foot devant la mairie. On attend que l'été passe, en fait. C'est un peu ça. Donc, il se passe des choses. Le rythme est assez lent, mais c'est assez doux. Ça se lit bien. Bon, ça restera pas dans les annales. Je ne donnerai pas de prix à la fin de... Voilà. Mais c'est assez bien écrit. Franchement, c'est une bonne surprise. C'est agréable à lire.
Mais merci beaucoup, Élodie. Alors, Valérie, tu as une pile de livres, hein.
Alors si Élodie n'avait pas pris autant de temps,
mais tu rigoles,
à parler de celui-ci. On aurait pu parler du Garçon venu de la mer de Gareth Carr aux éditions Gallmeister, absolument merveilleux, dans l'Irlande post-guerre, absolument génial. On aurait pu parler d'une pépite de chez Paulsen, Adnan Terre-mère, Linnea Axelsson. C'est un roman qui parle des peuples samis, tout écrit en poésie. Absolument merveilleux. Féministe et engagé. On aurait aussi pu parler de Si Rome meurt, de Renaud Rodier, qui raconte en fait... Non, tu cherches pas dans tes fiches, je te l'avais pas proposé. En fait, qui raconte un groupe d'étudiants qui luttent un peu contre le fascisme ambiant dans l'Italie, venant à la Rome, de 2025, et qui se bat avec une histoire de filiation, de père qui lui croit aux extraterrestres, absolument déjanté. Et si Élodie n'avait pas été si longue sur son dernier roman, on aurait pu parler du roman de Vassilis de Basile Panurgias. Jamais on parle des auteurs grecs. Et oui, là on aurait été à Athènes découvrir un architecte absolument génial.
Flagelle-toi
parce que... Et est-ce que tu penses que Pierre Hiergeau, avec Dernière Neige, absolument émouvant, où il raconte le dernier hiver...
Tu pourras le présenter sur les couvertures moches.
Oh non, mais c'est pas bien, c'est absolument magnifique cette couverture, je l'adore. La couverture, c'est une magnifique peinture qui s'appelle « C'est la nuit » d'Edwige Pouvry. Si tu nous écoutes, Edwige, c'est Élodie qui a bâché ta couverture.
Ma mère s'appelle
Edwige. Magnifique. Il raconte l'histoire de sa femme qu'il vient de perdre, mais c'est d'une beauté. Il est sublime, il est canadien, il est absolument délicieux, ce monsieur. On aurait pu aussi parler du roman de Jean-François, parce que je suis en colère de ne pas pu avoir parlé, de ne pas avoir pu défendre Impuissance de Jean-François Galetou, qui raconte lui aussi une histoire d'amour que nous tous, on a envie de lire, une vraie histoire d'amour merveilleuse sur deux mois. Celui-là, j'en ai parlé, donc je le jette. Et est-ce qu'on aurait pris le temps de parler de Violaine Béraud ? Violaine Béraud, qui a une résidence d'écriture au Four à Pain sur le Cosse, Méjean, c'est ça ?
Ouais,
c'est ça.
C'est pas pour du côté des vivants ?
Non, c'est pas du côté des vivants, c'est celui dont j'aurais dû parler, que vous m'avez empêché parce que ma parole a été coupée. Non, alors j'en parlerai pas. Est-ce que vous m'avez laissé le temps de parler de Sophie Pointurier, notre part féroce ?
Ah, c'était prévu, ça.
Oui, c'était prévu. On aurait parlé de Filiation, de Mère, de Dame Blanche, de Transformation à Loup-Garou, mais vous m'avez pas laissé le temps. Est-ce que vous m'avez laissé le temps de parler de Melvin Mélissa, qui raconte Une pieuvre parfaite ? Non,
Melvin.
Non. Melvin, pardon. Juste le temps de dire vite fait oui, est-ce que tu as lu
Et tu parles pas de Notre part féroce, ni de La mauvaise joueuse.
Mais si, La mauvaise joueuse, c'est pas moi. Notre part féroce, je voulais en parler. Ah. Mais non, vous me laissez à peine le temps de parler du prix Goincourt. C'est comme le Goncourt, sauf que c'est des romans Gwyn. Donc on va parler de... C'est des romans, en fait, c'est un prix Goincourt. Ça récompense une autrice de langue française qui aurait publié un ouvrage de littérature abordant la thématique lesbienne. Et donc, Il y a toute une première sélection, mais je vous conseille, je vous recommande de lire le livre de Céline Minard qui s'appelle Tovangar. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, ce n'est pas en écoutant un livre sur le zinc à la censure violente à 20h qui vous permettra de le faire. Mais reparlons-en quand vous voudrez.
Allez, vous savez où vous pouvez trouver Valérie pour venir discuter avec elle à la livrerie Amande. Merci à tout le monde.
Il y a les 530 autres.
Eh bien oui, mais il y en a trop. Valérie, on ne peut pas tout faire. On verra la prochaine émission. Flûte. On va décider. On ne vous dit pas le thème parce qu'Elodie a trouvé des thèmes formidables. Et on va en discuter maintenant. Et ça sera la surprise pour le mois prochain. Merci à tout le monde. Et comme dirait l'autre,
au revoir. Salut.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein dans la rue, il y en a plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire. Là.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.